nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Cette émission se propose de vous éclairer sur le nouvel observatoire de fin de vie qui a été créé par le ministre de la Santé, Madame Roselyne Bachelot, le lundi 22 février 2010. Mon invité était présent à cette inauguration et se propose donc de vous expliquer en professionnel de la santé ce dont il s'agit. Mon invité, c'est le professeur André Vacheron, cardiologue qui a dirigé pendant de longues années le service de cardiologie de l'hôpital Necker à Paris, qui est l'auteur d'un ouvrage qui fait autorité car il est sans cesse réédité sur la cardiologie et qui est membre de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences morales et politiques où il a été élu le 15 juin 2009. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être venu à l'issue d'une séance de l'Académie nous rejoindre dans ce studio. Mais avant de parler de cet observatoire, je crois qu'il serait important que vous nous disiez que se passe-t-il pour la fin de vie actuellement ?
Je pense que c'est une question tout à fait importante, tout à fait primordiale, parce qu'elle permet de mieux comprendre tous les éléments de législation et à l'heure actuelle d'aide que l'on peut apporter aux malades et à leurs familles. Vous savez que depuis quelques décennies, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. C'est en partie dû au progrès de la médecine du XXe siècle. Mais la fin de vie est souvent assombrie par des maladies chroniques, le cancer, je devrais dire les cancers, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale terminale, est également assombrie très souvent par des handicaps de plus en plus sévères, comme la maladie de Parkinson, comme les rhumatismes très invalidants. Il y a des rhumatismes qui vous clouent littéralement les patients au fauteuil ou à la chambre en tout cas. Face à ces épreuves, nos concitoyens expriment des peurs. Peur de souffrir inutilement, durablement. Peur de l'acharnement thérapeutique. Peur de l'abandon, de la mort dans l'isolement. Les Français ont aussi des attentes. Le soulagement de la souffrance, le refus ou l'arrêt des traitements déraisonnables, le souhait de l'accompagnement. Eh bien, ces attentes, ces peurs ont été bien perçues par le législateur et tout particulièrement par l'un de mes amis cardiologues qui est le docteur Leonetti. Et c'est lui qui est à l'origine de cette loi très importante du 22 avril 2005, loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Une loi qui a été conçue très précisément pour répondre aux peurs et aux attentes de nos concitoyens. Elle offre un cadre de réflexion, un cadre de décision aux acteurs de santé qui doivent élaborer, si possible, de façon collégiale et pas tout seuls dans l'isolement, leur projet thérapeutique. Et je vais vous en donner quelques articles qui sont vraiment fondamentaux. Premièrement, la loi donne le droit d'interrompre ou de ne pas entreprendre des traitements jugés inutiles, disproportionnés et n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Ce sont les articles 1 et 9.
C'est contre l'acharnement, ce qu'on appelle l'acharnement.
C'est contre l'acharnement thérapeutique qui, malheureusement, moi,
difficile
j'en ai
à juger,
vécu l'expérience dans mes premières années d'étudiant ou de jeune médecin hospitalier. L'acharnement thérapeutique était presque un dogme. Il fallait se battre pour essayer de gagner quelques jours. C'était pitoyable.
Maintenant, donc, il y a cette possibilité légale.
Légale. Deuxièmement, la loi donne le devoir de rechercher et de prendre en compte la volonté de la personne de refuser un traitement après qu'elle ait été informée des conséquences de son choix. Ce sont les articles 3, 6 et 7. Troisièmement, la loi donne le devoir d'assumer dans tous les cas la continuité des soins et l'accompagnement de la personne. Article 1, 4, 6, 9. Elle donne également aux médecins la possibilité d'utiliser des traitements pour soulager la souffrance, même s'ils abrègent la vie. Et je pense à la morphine. Enfin, elle donne, dans tous les cas, la loi recommande de donner l'information aux patients et à ses représentants, notamment à la personne de confiance désignée par le patient, sauf si le patient a souhaité ne pas être informé, conformément à la loi de 2002 que nous évoquions il y a un instant. Enfin, la loi demande que les décisions soient formellement inscrites dans le dossier médical. on ne fait pas les choses dans l'ombre. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, malheureusement, dans les derniers jours, les dernières heures, le patient est dans un état comateux ou semi-comateux. La loi introduit l'obligation d'une procédure collégiale. La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins, s'il y en a une, c'est le cas de l'hôpital, et sur l'avis motivé d'au moins un médecin appelé à titre de consultant et éventuellement d'un deuxième consultant si l'un des médecins l'estime utile. Ce n'est pas un médecin tout seul qui va prendre une décision de tout arrêter et de laisser vraiment le cours de la maladie achever son œuvre.
C'est une décision de l'équipe médicale soignante.
De l'équipe médicale soignante, ou s'il n'y a pas d'équipe médicale soignante, si ça se passe au domicile, on fait venir un deuxième médecin. Et s'il le faut, un troisième médecin. Le médecin doit limiter ou arrêter un traitement jugé inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie en tenant compte de l'histoire, du contexte et de l'environnement du patient. Donc une loi extrêmement précise et tellement, je trouve, bien structurée qu'elle rend tout à fait dérisoire toutes ces querelles sur le droit à l'euthanasie choisie par un patient et décidée de façon tout à fait arbitraire.
Le code a tout prévu finalement, situations. Et alors, que dirait le code des médecins qui
alors,
ont
le
aussi
code, nous avons, vous le savez, un code de déontologie médicale qui est tout à fait en phase avec les articles de la loi. Le code de déontologie médicale précise par deux articles que je vais rapporter. L'article 37, qu'en toute circonstance, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement, éviter toute obstination déraisonnable, non seulement dans le traitement, mais également dans les investigations. Pourquoi multiplier des examens inutiles alors qu'on connaît parfaitement l'issue de la maladie ? Deuxième article très important du code de déontologie, l'article 38. Le médecin doit donc accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et des mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade, réconforter son entourage.
Certes, quand la vie prend fin à un âge où on peut dire que la personne a déjà bien vécu, il y a peut-être moins de difficultés, mais il y a aussi des gens très jeunes dans les unités de soins palliatifs, par exemple. Et là, la décision doit être encore plus difficile à prendre, parce qu'arrêter une vie jeune, c'est plus difficile encore.
Eh bien, justement, nous allons évoquer le problème des jeunes avec la création de cet observatoire de la fin de vie. Cet observatoire de la fin de vie a été créé par décret ministériel, par décret du ministère de la Santé, Mme Bachelot, à la suite de la constatation que la loi Leonetti n'était pas bien connue, qu'elle n'était pas bien appliquée, qu'il était survenu une succession d'affaires très médiatisées, comme l'affaire Vincent Aubert, qui était ce jeune, autant que je me souvienne, quadriplégique, qui était réduit à une vie purement végétative, cloué sur un lit. Comme également l'affaire de Chantal Sébir, cette malheureuse femme qui avait une effroyable tumeur du visage et qui n'en pouvait plus et qui était incurable. Et c'est à la suite de ces affaires, alors que la loi Leonetti existait déjà, que, à la demande d'ailleurs du comité d'observation de l'application de la loi Leonetti, qu'a été décidé et créé cet observatoire de la fin de vie.
À la fois par manque d'application de la loi et par manque d'information de la loi.
La loi, il a été créé en raison de la constatation que la loi était méconnue, n'était pas bien connue et qu'elle était mal appliquée. Avec les articles que je viens de vous citer, de vous énumérer, la loi est parfaitement clair et on n'a pas besoin de se rendre en confédération helvétique pour se faire donner une mort douce. Quand on a une maladie grave, qu'on est à la dernière extrémité, eh bien, il y a tous les éléments dans la loi pour avoir une fin de vie dans la dignité. Et par contre, ce que le docteur Leonetti s'est toujours refusé à admettre, c'est qu'une personne encore bien portante, ayant encore un cerveau qui fonctionne parfaitement bien, une personne décide arbitrairement, en quelque sorte, de mettre fin à ses jours parce qu'elle trouve qu'elle s'enfonce dans la déchéance, qu'elle va évoluer vers la déchéance, et que pour elle, la vie n'a plus aucun intérêt. Alors ça, c'est l'euthanasie. On décide d'arrêter la vie parce qu'on estime que la vie n'a plus aucun intérêt pour soi-même.
Alors, monsieur le professeur, cet observatoire donc, de la fin de vie qui vient d'être créé, où se situe-t-il concrètement ?
Eh bien, cet observatoire est adossé au Centre de ressources nationales François-Xavier Bagnoux, dont je vous dirai un petit mot dans un instant, qui est installé à la Croix-Saint-Simon, c'est-à-dire à l'institution très très importante qui a été créée par Marie de Miribel en mai 1906, très exactement le 13 mai 1906, et qui est une fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon, reconnue d'utilité publique dès 1922. Et cette fondation œuvre qui a son siège avenue du professeur André Lemierre à Paris dans le 20e, a intégré dans sa mouvance le Centre de ressources nationales soins palliatifs François-Xavier Bagnoux, qui avait été créé en 1997.
Donc il se situe à Paris. Est-ce que c'est le seul, c'est certainement le seul observatoire,
c'est le seul observatoire
en France.
Absolument.
Mais ça n'est certainement pas le seul endroit en France où on pratique des soins palliatifs
non.
qui se sont beaucoup développés depuis une vingtaine d'années.
Bien sûr, il y a des soins palliatifs. Dans tous les grands centres hospitaliers, il y a des unités de soins palliatifs. À l'hôpital des Diaconesses, qui fait partie de la fondation de la Croix-Saint-Simon, qui est jumelée avec l'hôpital de la Croix-Saint-Simon, à l'hôpital donc des Diaconesses, dans le 12e arrondissement, il y a une unité de soins palliatifs qui est l'unité à Bivennes.
Alors comment est organisé cet observatoire? Je suppose qu'il a un président. Comment s'organise-t-il?
Alors, l'observatoire va avoir un comité de pilotage.
Dont vous faites partie, monsieur le professeur.
Dont je fais partie en tant qu'administrateur de la Fondation de la Croix-Saint-Simon. Et cet observatoire va avoir un certain nombre de missions. Tout d'abord, observer les conditions dans lesquelles se déroule la fin de vie et les pratiques médicales qui l'accompagnent dans les différentes unités de fin de vie, en quelque sorte, mais également hors des unités de fin de vie, puisque vous le savez, à l'heure actuelle, la majorité de nos concitoyens meurent à l'hôpital. Et justement, la mort à l'hôpital ne se fait pas toujours dans des conditions idéales, parce que la fin de vie implique une formation, une éducation des soignants et des équipes qui vont s'occuper de ces patients qui arrivent aux dernières heures de leur vie.
J'allais vous demander justement si dans le programme de formation actuel des jeunes médecins, il y a un programme pour cela particulièrement ?
Il n'y a pas encore de programme bien développé. Alors l'observatoire doit d'abord observer les conditions de fin de vie, deuxièmement, identifier les besoins d'information de la population et des personnels de santé, parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a également les soignantes. Identifier les besoins de recherche, parce qu'il faut faire émerger de nouvelles recherches sur cette période douloureuse de la fin de vie. Et puis, organiser des séminaires d'échange avec les autres pays européens qui ont également les mêmes problèmes que nous, en particulier l'Angleterre ou l'Allemagne. Donc, cet observatoire a pour mission principale d'avoir une bonne application et une bonne connaissance de la loi Leonetti, de la loi du 22 avril 2005.
Est-ce qu'il publiera un rapport pour
sûrement, il y aura un rapport annuel.
Un
rapport annuel qui sera bien évidemment adressé, soumis au ministère de la Santé.
Quelles sont les questions auxquelles justement sont confrontés les personnels de la santé, particulièrement? Qu'est-ce qui est difficile chez eux pour appliquer la loi?
Les équipes médicales et paramédicales, il est toujours difficile de se résigner à baisser les bras. On a toujours un petit peu l'espoir que les choses vont s'arranger. Je peux faire état de situations désespérées que j'ai vécues, de patients qui vraiment étaient dans un état infectieux, septicémique, épouvantable. Tous les antibiotiques se cassaient les dents sur les germes qui étaient multirésistants. Et on espérait toujours, et malheureusement, à mesure que les semaines, je dis bien les semaines, parce que ce malheureux a mis quelques semaines pour mourir. À mesure que les semaines passaient, eh bien les différents viscères devenaient tour à tour défaillants. Les poumons ne respiraient plus, les reins ne fonctionnaient plus, le cœur faiblissait. Et on s'est battu probablement pendant 3-4 semaines pour essayer encore de gagner. Mais je pense que finalement, on aurait peut-être pu abréger cette évolution qui était désespérée. Et même dans les équipes médicales, on a toujours un petit peu presque l'angoisse d'arrêter trop tôt.
Monsieur le professeur, y a-t-il un numéro particulier où l'on peut s'informer justement auprès peut-être de cet observatoire?
C'est une très très bonne question, Madame Renard. Une ligne nationale d'écoute, accompagner la fin de la vie, s'informer, en parler avec un numéro Azur, le 0811 020 300, a été créé au Centre de ressources nationales François-Xavier Bagnoux, à l'initiative du ministère de la Santé, sur une recommandation de Marie de Henzel et une préconisation de la mission parlementaire Leonetti. Cette ligne, avec son numéro Azur que je répète, 0811 020 300, a été ouverte au public le 19 mai 2005 et inaugurée par le ministre de la Santé de l'époque, Philippe Douste-Blazy. Cette ligne est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 19h30. Elle fournit des informations sur les soins palliatifs, sur les structures d'accueil, sur les droits des malades, les droits de leur famille, et elle peut donner des orientations vers les structures de soins et d'accompagnement. Elle constitue un espace d'écoute, un espace de parole pour les personnes gravement malades, pour les aidants concernés par la fin de vie et par le deuil, ainsi que pour tous les professionnels, confrontés à des questions qui sont parfois très complexes. Et cette ligne est extrêmement précieuse et nous regrettons à la Fondation Œuvre de la Croix-Saint-Simon qu'elle soit insuffisamment médiatisée.
Eh bien, nous allons y contribuer en vous remerciant, monsieur le professeur, justement, de nous avoir donné cet éclairage sur les conditions actuelles et aussi sur les progrès, si j'ai bien compris, qu'il faut continuer à faire pour que la fin de vie soit un moment moins douloureux à passer. Et malheureusement, c'est encore très difficile. Donc, merci infiniment de votre intervention dans cette émission.
Merci à vous, madame Renard, toujours aussi accueillante et pertinente.
Merci beaucoup.